Nous sommes le jeudi 1er novembre et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Proxy Jeux, c'est aussi une application sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut Jérémy.
Salut Olivier.
Comment vas-tu ?
Va bien.
Après Essen ?
Ah bah 2 semaines après, ça va, j'ai eu le temps de cuver.
Et bientôt Noël. Oui, bien, on peut maintenant faire nos petits prélèvements sanguins. Le taux de cholestérol suite à toute cette graisse de saucisse et à toute cette bière a pu baisser un petit peu. Et on va quand même vous finir ce qu'on a commencé, parce qu'on a mis 4 petits courts extraits de podcast. Ce sont des vrais podcasts, même pas des extraits de podcast.
Ah oui, ils font 20 à 30 minutes quand même déjà.
Et nous avons raconté notre séjour à Essen, donc qui est ce salon du jeu merveilleux en Allemagne, comme à chaque année. Et donc, on vous a raconté notre séjour. Le jour 0, le mercredi quand on est arrivé, jour 1, le jeudi, jour 2, le vendredi, et puis le jour 3, le samedi. Mais
bien, tu les comptes plus perspicaces de tes jours de la semaine.
C'est ça, j'ai compté jusqu'à 3 et je connais mes 7 jours de la semaine. Les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué qu'il n'y avait pas de jour 4. Et donc, on va se proposer aujourd'hui d'abord de rectifier et de vous dire ce qu'on a vu, nous, le jour 4. Et puis de faire un petit débrief global sur le salon, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Qu'est-ce que t'en dis ?
Bah ouais, on aurait voulu le faire plus tôt, mais voilà, bon, les calendriers...
Mais Jérémy était en vacances.
Ouais, enfin, Olivier, t'es toujours en déplacement injoignable la semaine d'avant, et après, c'est moi qui étais en vacances, donc...
Voilà, vous savez tout sur notre
coup.
On y va ?
On est parti.
Alors, on va faire un retour sur le dimanche. Le dimanche, nous, on repartait, bah forcément, c'était le dernier jour du salon, on aurait pu partir le lundi. Comme on s'est dit qu'on le ferait si souvent, mais non, donc on est parti.
Jamais on a craqué encore.
On est parti dimanche après-midi. Et tu faisais la remarque que...
Je sais pas, il faisait beau.
Qu'on avait beaucoup joué.
Ah, comme toujours. Ah oui, le dimanche.
Non, particulièrement, le dimanche.
Le dimanche.
Reconcentre-toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, les gars. Quoi.
Mais non, on a déjà tout parlé en off avant. Oui, effectivement, le dimanche, on est resté que de 10h à 14h, donc 4h seulement. Enfin, non, on est rentré vers 9h30. Et on a eu le temps de faire 5 jeux.
Ouais.
4-5 jeux, si je me trompe pas. Ce qui est pas mal. Bon, alors un peu de tout, évidemment, comme d'habitude, mais c'est pas mal.
Alors,
c'est vraiment une année pleine de jeux.
On a donc profité de notre passe-presse, et puis on est allé voir les Italiens de Artipia Games pour essayer leur... commencer d'un deck building game.
Ouais, c'est un deck building.
À la manière de Eminent Domain, et qui s'appelle...
Briefcase.
Déjà, le nom fait rêver, Briefcase, un trader, des buildings, et puis Briefcase. Je te laisse juste, parce que toi, t'es l'expert en deck building game ici.
Ah oui, au moins.
Ouais. Moi, tant qu'il n'y a pas de dés, je ne peux pas en parler, hein, vas-y.
Ah oui, non, ça c'est sûr. Alors, Briefcase, c'était un deck building, donc forcément, il avait attiré mon attention. J'en avais parlé dans les jeux que je voulais tester. C'est basé sur le monde des affaires, et en fait, on démarre avec une compagnie... plutôt produire, je sais plus quoi, l'électricité ou je sais plus quoi. Ouais. Et on va devoir petit à petit acheter d'autres compagnies et s'étendre pour marquer des points de victoire.
Mais
le thématique est complètement abstraite.
Plaqué.
C'est une catastrophe.
Oui, disons-le tout net, c'est un prétexte.
Ah, c'est un pur prétexte, c'est une catastrophe. Je m'attendais à quelque chose d'un peu intéressant justement là-dessus. Absolument pas. Dans ce cas-là, si on veut pas de thème, on fait Dominion.
Ouais, enfin, et encore qu'ils ont réussi à enrober. Mais c'est vrai que le premier, c'est les achats, les actions et rien d'autre. Enfin, c'est très technique.
Donc, pourquoi est-ce qu'on le compare à Eminent Domain ? Parce que on a en main au départ, on va rajouter des actions d'achat. On va pouvoir acheter des matières premières ou bien des compagnies. Et on va aussi pouvoir. Il y a des cartes de blocage.
Oui.
Donc, c'est le gros raté du jeu pour moi. Et parce que souvent, ces cartes de blocage qu'on a en main, en fait, on n'en a rien à faire. Et on peut pas s'en débarrasser, on peut pas épurer son deck, c'est une catastrophe.
Et ben moi j'ai eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a dans sa main, plutôt que des cartes de victoire comme on peut avoir à Dominion, des cartes avec des zéros. Donc ça, a priori ça ne sert à rien, mais ça permet quand même d'avoir une interaction sur le jeu. Et en fin de compte, l'interaction, le blocage qu'on peut avoir, par exemple au niveau des ressources, la pioche des ressources, et ben elle est levée grâce à ces cartes-là. Et en fin de compte, elles servent à contrecarrer un mécanisme de jeu qu'ils ont rajouté en plus.
Donc il y a les cartes avec les A, une carte d'action avec les A pour faire les
Les activations.
Les activations d'entreprise. Parce qu'au départ, quand on achète une compagnie, il va falloir la payer simplement avec des cartes, donc buy.
Ouais.
Et ensuite, on va donc l'avoir face cachée, enfin face pas activée quoi, côté noir et blanc, grise. Et pour l'activer, il va falloir donc jouer des cartes d'activation.
C'est ça.
Et pour acheter les compagnies, avant, il faut acheter des ressources, les matières premières. Et c'est là que effectivement, on peut jouer des cartes qui vont permettre de bloquer l'achat de ressources.
Bref.
Et c'est ce qui. Enfin, ouais, non, mais c'est. Enfin, moi, c'est le truc. Ça fait de l'interaction. On peut faire attention à ce que va jouer l'adversaire et dire, OK, moi, je vais bloquer ces ressources-là, etc. Dans la pratique, alors, ça venait peut-être de la bonne disposition qu'on avait sur place ce jour-là, mais qui permettait pas d'avoir une grande variété de stratégies ou de. C'est ça qui m'a paru très étroit dans ce jeu. Ouais. On n'a pas 50 façons de faire, il faut aller chercher juste des ressources, on fait comme on peut, on prend des compagnies qui vont nous aider à passer les blocages, on peut facilement passer outre les blocages, et donc cartes de blocage qu'on a en main, elles servent plus à rien.
D'accord, à ce moment-là, oui, c'est-à-dire que tu peux par exemple acheter une compagnie, l'activer, et elle te permettra de piocher n'importe quelle ressource, alors que c'est les cartes de blocage, les cartes de perte sèche que tu as en main, elles pouvaient également te le permettre de le faire, et au bout d'un moment, ça te sert à rien.
Voilà.
Alors, c'est quand même une première impression. Toujours une partie, une grosse partie. Enfin,
on l'a pas fini. À ce moment-là, deux, on l'a pas fini.
On n'a pas fini.
Parce que juste pour dire, ce qui m'a bridé dans ce jeu, enfin, ce qui m'a pas plu dans ce jeu, c'est que justement, donc, on a que trois types d'actions en main possibles. Les blocages, les achats et les activations. Et que parfois, on voudrait faire autre chose, mais on n'a pas de chance. C'est pas ce qu'on a en main qui, ça correspond pas. Et là-dessus, c'est là où je me suis dit, finalement, Eminent Domain, qui reprend un peu un concept à juste des cartes d'action en main, va plus loin, puisqu'à ton tour, t'es jamais bloqué, puisque quand tu veux faire une action, c'est pas compliqué. Tu prends la carte qui est au centre et tu l'ajoutes à ta main. Donc déjà, quoi qu'il arrive, une action que tu as besoin de faire, tu peux la faire. Même si tu ne l'as pas dans ta main, tu peux déjà la faire. Ensuite, les cartes que t'as en main viendront bonifier ton action. Et ça, c'est ce qui rend le jeu Eminent Domain si pratique, enfin si facile, si accessible, et ce qui manque dans Briefcase, et pour ça que du coup Briefcase m'a juste donné envie de rejouer Eminent Domain. Eminent Domain, on en a parlé dans le numéro 30. Donc je vous renvoie là-bas pour découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas encore.
Donc Briefcase, c'est un jeu chez Artipia Games, de Nicolas Sakeloglou et Sotrios Tsantilas. Pour 2 à 4 joueurs, ça sort cette année, sans doute en import dans les meilleures boutiques. 2 à 4 joueurs, 45 minutes, 10 ans et plus. Et donc vous avez compris que cette première partie découverte, bout de partie découverte, nous a vraiment pas emballé. Qu'on a préféré Eminent Domain, un jeu de 7 Jaffé. C'est distribué en France. Alors c'est toujours en anglais, mais
Eminent Domain.
Oui.
Ouais, c'est de l'import. Je crois pas que ce soit facile à trouver. En Allemagne, Essen, il y en avait de partout, par contre, en allemand.
Et un tout petit peu en anglais. C'est le même format, 45 minutes. Là, ils disent 12 ans et plus. Mais c'est à peu près ça. Et donc, c'est un deck building qui change un petit peu de Dominion. Peut-être un petit peu plus accessible, un peu plus familial.
Mais qui va moins se renouveler.
Qui va moins se renouveler. Et le gros problème qu'il y a avec ce jeu, c'est qu'il est actuellement disponible qu'en anglais. Et qu'à notre connaissance, il n'y a pas de VF prévu. Alors, on espère qu'il sera traduit. On verra dans quelques temps.
Et on me fait signe dans l'oreillette qu'en fait, Artipia Games, c'est grec et pas italien. Désolé pour les...
Ouais.
je suis allé vérifier d'un coup. J'ai pris d'un doute quand j'ai entendu les noms des auteurs.
Tu veux dire Nicolas Sakaglou et Sotrios Tsantilas.
Ça n'est pas bien italien, tout ça. Ouais. Donc, c'est grec. Donc, participer un petit peu à la relance de l'économie grecque, acheter...
Ou pas.
Un jeu d'Artipia. En tout cas, il est trouvable dans les boutiques françaises. Et pour continuer dans nos tours de l'Europe des pays en difficulté, on est allé voir les Espagnols de chez Genix.
Ah, bravo! Bravo!
Oui, c'est comme ça.
Bel esprit chez Proxy Jeux.
On est allé voir Northwest Passage. Pourquoi Northwest Passage? Parce que la veille, souvenez-vous, puisque vous l'avez entendu maintenant il y a 2 semaines, on avait croisé les Gobelins Roses et qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient bien aimé.
Et ma foi, c'était pas une mauvaise surprise. On n'a pas été super emballé par Briefcase. Et autant, Northwest Passage, on l'a vendu à nos 3 camarades. On en a vendu 3 boîtes.
Non, 2 boîtes quand même. Parce qu'il y
avait boîtes.
Il y avait un couple, donc il ne faut pas acheter 2 fois le même jeu. Okay. Enfin,
mais ils ont bien aimé. Alors, le principe de Northwest Passage, c'est qu'on est chacun des joueurs, ça joue à 2, 3 ou 4, chacun à la tête d'un navire qui doit passer dans un couloir rempli d'icebergs. Ouais. Et c'est au nord de l'Amérique, c'est ça?
Ouais, c'est le passage des océans là-haut.
Et chacun va essayer de naviguer au mieux entre les icebergs, sur le terrain le plus favorable. Chacun a quatre actions et va devoir ainsi aller le plus vite possible par rapport à ses adversaires, sachant que pour naviguer d'une case d'eau à une case d'eau, c'est une seule action. Quand on navigue vers une île, vers un morceau de terre, c'est deux actions. Après, il y a de la banquise et puis après, il y a les icebergs, trois ou quatre actions. Et donc on a une carte personnage, chacun a un capitaine qui a un pouvoir particulier, par exemple le pouvoir de faire naître des icebergs derrière lui.
C'est facile, voilà. C'est un peu les mutants des X-Men des temps nouveaux.
Et puis on va trouver des trésors, donc on va pouvoir passer et puis avoir des capacités spéciales au fur et à mesure qu'on avance dans la glace. Et dernière chose, les navires qui prennent le parti de nous suivre, on va leur ouvrir la voie, on va tailler dans la glace, et donc ça sera beaucoup plus facile pour eux de nous suivre, un petit peu comme l'aspiration dans les courses automobiles. Et c'est une vraie course. Le plateau est constitué d'hexagones collés les uns aux autres en sorte de bande. Alors je sais pas comment le...
Ouais, de manière aléatoire. Mais en fait, en fonction de nos joueurs, c'est plus ou moins large, la piste. Ouais. Et il doit toujours y avoir quatre rangées découvertes devant le premier bateau. La particularité, c'est quand on se déplace, on calcule où est-ce qu'on va devoir passer. Par exemple, pour ces quatre actions, je vais me déplacer sur trois cases, et on a devant soi qu'un certain nombre de tuiles avec des formes un petit peu particulières. Il y a des trucs de deux hexagones qui se tiennent, donc pas de problème, mais on en a un nombre limité, on en a que cinq, si ma mémoire est bonne. Donc c'est-à-dire qu'au-delà, une fois que j'aurai placé ces cinq-là, je ne pourrai plus en jouer d'autres. Il y en a aussi qui font 4 cases de long, etc. Donc il va falloir aussi jongler un petit peu avec ces tuiles-là et gérer son stock.
Oui, une contrainte de place.
Ça, c'est une contrainte. Mais après, donc, la bonne idée du jeu, c'est qu'il pourrait être purement mathématique si jamais on était. Si on jouait juste plusieurs, qu'avec ça. Non, ouais, enfin, ouais, on pourrait juste être à calculer au meilleur coup. Mais heureusement, c'est pour ça qu'ils ont rajouté toutes ces notions de trésors et de cartes et les pouvoirs des capitaines qui vont donner un petit côté un peu plus fun au jeu. On va pas hésiter à se faire éventuellement des crasses, notamment quand on est suivi.
Ouais, alors moi, j'ai bien aimé. Nous, on n'a pas craqué. Ouais, c'est le mot. On n'a pas craqué. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas acheté. Par contre, pour un jeu de course, c'est un jeu original et qui change. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un jeu comme ça, ouais, en jeu de société. Donc, il est original, il tourne bien. Et puis voilà, bah, c'était pas forcément pour moi, mais jeu familial.
J'aurais pas de public, en fait. Enfin, j'ai pas de...
Ouais, on est sans doute pas la cible. Donc le jeu s'appelle Northwest Passage Adventure, à ne pas confondre avec Northwest Passage, le jeu de chez Matagos, il est sorti il y a 2 ans. Victor Rojo Arias, Diego Martin de la Pueblas Encinas et Jaime Vega Romera.
Très bien.
Voilà. GenX Game pour 2 à 4 joueurs, 40 minutes, c'est vraiment un jeu d'apéro, 10 ans et plus, vous pouvez y jouer en famille, ça change agréablement et bah, c'est pas mal, donc moi j'ai bien aimé. Même si je l'ai pas ramené, j'ai bien aimé. Il y a des moments sur le Salon d'Essen où on n'a pas envie de s'arrêter. Il y a des éditeurs, on passe devant et on baisse les yeux. On accélère un petit peu le pas et puis on se dit non, je ne veux pas, quoi, je ne veux pas. Et c'était le cas pour Pants on Fire. Oui, pants comme la culotte et on fire, en feu. Et on doit avoir une photo quelque part, on vous le mettra sur le blog, d'un slip kangourou avec une petite flamme factice bien sûr en dessous. Et bon, ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille quant au thème et à un petit peu le style de cet éditeur.
Typiquement britannique.
Et il a fallu qu'on joue, et en fin de compte, c'était pas on a passé de moins bons moments à Essen, en fait, qu'en jouant à, vas-y dis-le parce que sinon j'y arriverai pas, Dondelet, Mama, Grandma.
You can push your granny off the bus.
You can push your granny out of the bus.
Non, il n'y a pas d'out.
Off the bus. Donc O2F. Tu peux pousser ta grand-mère
hors du bus.
Yes.
A priori, c'est en clin d'œil, il y a une chanson écossaise qui dit que you cannot push. Je ne peux pas pousser ta grand-mère.
Ah, ils sont bien, ces écossais.
Ouais. Là, c'est les anglais. Bon, alors, le principe du jeu, c'est un petit peu un Rumble in the House. J'ai déjà mis des photos. C'est Rumble in the Bus, ouais, avec des cartes actions en plus, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas forcément éliminer tout de suite. Ça complique un peu, surtout le jeu où on jette un dé. Donc il y a chaque camp a 2 mamies, la grosse mamie qui doit se faire sortir du bus par les autres, et une mamie plus maigrichonne qui elle va se déplacer, va être très mobile. Elle peut même sauter du bus en marche pour aller chercher des cartes actions qu'elle va pouvoir jouer.
Alors, les cartes action, c'est par exemple un coup de parapluie ou...
Oui, une attaque à coup de bonbon, là, voilà. Bonbon à la menthe.
Et donc, genre de choses.
Voilà, et quand on fait une attaque sur une mamie adverse, donc c'est un peu comme le mid-board, hein, chaque carte d'attaque a des cartes de parade. Si le joueur a une carte de parade, il la joue tout de suite et c'est bon. Et sinon, ça pousse la mamie d'une case plus près de la sortie du bus.
Ouais.
Et quand elle doit encore avancer et qu'elle est sortie du bus, ben, elle a perdu. Mais le joueur n'est pas éliminé puisqu'il garde sa petite, sa mamie migration qui va toujours pouvoir aller pousser les autres. Donc, petite vengeance possible.
Ouais, c'est cool, c'est unique, c'est bien. C'est...
Ouais, ça dure juste un petit peu long et ouais. On est trop au sujet au jet de dés. Mais par rapport à Molly in the Heart, finalement...
C'est pas plus mal.
Voilà, c'est dans le même genre.
Rappelons que Rumble in the House se vend très bien et que est sorti pour Essen Rumble in the Dungeon.
Qui s'est beaucoup moins bien vendu parce que le stand... Bah, je sais pas, sur le stand, il y avait encore un paquet de boîtes... Ça n'a pas le succès de l'année dernière, parce qu'il faut dire quand même que c'est un repackaging du même jeu. Quoi.
Oui, mais alors il y a de ça, et peut-être aussi qu'ils avaient pas, ils avaient un peu poussé le nombre d'exemplaires, et sont peut-être fait avoir pour ça. Parce que j'en parlais tout à l'heure, moi, mon coup de gueule, c'est un petit peu les éditeurs qui viennent avec peu de boîtes, et puis en fait, qui font sold out, voilà quoi. Il y a un truc un peu bizarre là-dessus, mais bon.
Ah bon, tu nous diras tout à l'heure alors.
Et puis, attention, ouvrez grand vos oreilles, parce que tout de suite, je vais vous donner le nom. Je t'ai fait mal ?
Ah oui, tu dis ouvrir grand vos oreilles, moi j'ai plus d'oreilles là.
Je vais vous donner le nom du jeu avec un grand J majuscule du salon. Il s'agit de Riff Raff, de chez Zor. Alors Zor, c'est un éditeur, peut-être un Spiel. Peut-être un Spiel ?
Un Spiel des Sirius, ouais.
C'est toi qui le dis ?
Peut-être.
Peut-être.
Tu notes le
Spiel en puissance.
J'ai d'autres trucs après.
Ouais. Donc, alors Riff Raff, qu'est-ce que c'est ? Riff Raff, donc Zor, c'est un éditeur allemand. Qui est à l'origine, par exemple, de Picplume. C'est eux qui ont édité ce merveilleux jeu pour les enfants. Et ils récidivent. Ils ont fait Niagara.
Ouais, quand même, voilà. Ils ont fait Niagara, quand même, qui est une grosse référence également.
Ils ont fait quoi encore ?
En jeu d'équilibre, c'est les spécialistes. Ils avaient fait Bamboléo.
Ouais.
Un truc où on a posé des pièces sur un plateau qui bouge. Ils avaient fait Sac Noir, donc c'est une sorte de Badaboum, avec plein de règles différentes.
Et puis, bah ici.
Ils avaient fait Hamster Roller, là, un truc avec un anneau. Enfin bref, des jeux d'équilibre, ils savent faire. C'est vraiment leur domaine.
Et cette année, un jeu avec un bateau, et déjà l'objet est joli, c'est-à-dire qu'on monte vraiment un bateau. Alors c'est compliqué à monter parce qu'en fait, il y a plusieurs pièces, il faut enfoncer le bateau. Voilà.
Qui passe quand même à sécurité des aéroports.
Ouais, c'est
à
ça. Alors si vous voulez, si vous êtes un peu joueur, passez un riff-raff avec vous dans le sac, parce que c'était vraiment le dernier jeu que j'ai acheté sur le salon. Et en fait, imaginez-vous un morceau de 20 cm en bois, un manche de 20 cm en bois, avec une boule au bout, mais une boule qui est vraiment lourde. Et ça fait une très bonne matraque. Ça fait aussi un très bon levier, un très bon balancier, en fait. Et c'est un peu ça, le but de ce jeu, c'est de faire bouger un maximum un bateau. Donc, on a une coque, et sur la coque, on va avoir un mât, et sur le mât, on va avoir deux niveaux. Attends, 3 niveaux. On va avoir 3 niveaux de mât, et sur lesquels on va poser des objets. Alors, les objets sont divers et variés dans leur forme, dans leur grosseur.
Un coffre, une bouteille, c'est en bois.
Et d'ailleurs, certaines sont plus glissantes que d'autres. Ça, c'est rigolo. Il y en a qui sont particulièrement glissantes et pas d'autres. Alors, l'idée, c'est que à son tour, on va avoir 10 cartes. Enfin, on va avoir 10 cartes, et pas à son tour, mais tous en même temps, on va en sélectionner une.
Elles sont numérotées de 1 à 10.
Ces numéros correspondent à un emplacement, soit sur les mâts, soit sur la coque. Il y a 4 emplacements sur la coque et 2 sur chaque mât. Et on va pouvoir poser un objet à l'emplacement qu'on a choisi. Par ordre de décroissance, c'est-à-dire d'abord le plus grand, après le plus petit. Sachant que si sur les vergues, il y a déjà des objets, on va pouvoir remplacer non pas un, mais deux. On va pouvoir accélérer, ça accélère un petit peu les choses.
La partie s'arrête si on arrive à se débarrasser des 10 objets avant les 10 tours. Et
ou à la fin des 10 tours.
Parce que quand on pose un objet, comme ça fait balancer le bateau, il arrive des fois que les objets tombent.
N'est-ce pas ?
Alors... Tout ce qui tombe, c'est pour votre pomme, sauf si vous arrivez à les rattraper avant.
Alors ça, c'est la première bonne idée. C'est-à-dire que si vous rattrapez, c'est pas un jeu auquel on joue assis, il faut être debout, et quand vous posez la pièce, il y a une sacrée inertie sur le bateau, il va commencer à bouger. Longtemps après que vous l'ayez laissé tranquille, il va continuer à bouger. Donc n'hésitez pas à passer la main assez vite pour que ça tombe chez votre adversaire.
On joue pas avec un sablier, ceci dit, on peut attendre qu'il se stabilise un petit peu.
Ouais, c'est ça. Et alors une règle qui est extraordinaire, c'est tu touches la pièce, tu la joues. Et ça, ça rajoute un côté extraordinaire au jeu.
Je trouve que c'est très dur parce que machinalement on touche les pièces déjà.
Oui,
en fait,
oui.
Et là, il faut garder ses mains sous la table.
Et on y pense uniquement quand c'est les autres. C'est-à-dire que quand les autres sont en train de toucher leurs pièces, on dit, ah non, tu peux pas prendre nos pièces, c'est celle-là que tu dois prendre. Ah mais non. Donc voilà, donc c'est pour la famille. Ouais.
C'est qu'on va devoir placer, forcément, qu'on a une carte de 1 à 10 qui représente les 10 emplacements, on va être obligé, à un moment ou à un autre de la partie, de poser une pièce sur chacun des emplacements. Il faut choisir au bon moment. Il y a plein de choses à choisir. Il faut le choisir par rapport aux autres joueurs, par exemple, si on veut être premier à jouer ou pas. Et ensuite, à l'emplacement qui nous semble le plus correct à un instant T.
Ouais, c'est ça. Il y a un petit aspect memory. Je me souviens, parce que comme les pièces ne restent pas en place, j'essaie de me souvenir ce que les autres ont joué, pour me dire, je vais m'intercaler là, où lui, il a pu son 10, je vais plutôt le jouer maintenant. Et c'est bien trouvé. Et l'objet en lui-même est beau et marche très, très bien. C'est juste un balancier et ça marche très bien.
On dirait que c'est encore un jeu d'équilibre, mais c'est sans doute le meilleur jeu d'équilibre paru jusqu'à maintenant.
Oh!
Bah ouais, faut le dire. Bon, après, ouais, jeu d'équilibre, moi, le problème, c'est que je trouve que je les sors pas souvent et qu'on joue une partie et pas plus. Et le problème du jeu, c'est que c'est son prix qui fait super mal.
Ouais, il sera à plus de 40 euros, je pense, 45.
Il était à 45 à Essen et à mon avis, il sera à 50 en France. Donc ça fait enfin, de toute façon, les jeux d'équilibre, c'est toujours un jeu prix costaud parce qu'il y a toujours du matériel un peu spécial. Mais bon.
Voilà. Donc, Riff Raff chez Zor, ça va certainement sortir chez Gigamic, et pas Zigamic. C'est Christophe Kantzir, Zuck Verlag, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes, ouais, ça dure un quart d'heure, 20 minutes même, c'est encore plus rapide. Une bonne partie de fou rire, et vraiment, ça peut être, choisissez bien vos joueurs, et c'est vraiment très 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 joli jeu. Voilà, ça c'est les 4 parties qu'on a fait. On a beaucoup joué à cet Essen.
J'ai fait un autre jeu tout seul.
Quoi ?
Ouais.
Mais quand ?
C'était le jour 3, mais quand je jouais à Uchronia.
Ah, d'accord. Alors,
j'ai oublié d'en parler. On a joué
le dimanche. Et voilà. Donc, tu voulais aussi parler d'un autre jeu, Jérémy ?
J'ai testé Soulforge.
Soulforge.
Ah, c'est la première fois que j'en parle, donc.
Tu me fais des infidélités, en fait.
Je vais vous en reparler d'autres.
Tu joues sans moi et je sais même pas que t'allais jouer à ça.
Et ouais, bah, c'est comme ça, j'ai gardé secret.
Ok, d'accord.
Donc, Soulforge.
Il m'a dit, non, mais je suis parti, j'ai discuté avec plein de monde.
Oui, en partie. Oh, bah oui, je discutais avec le gars qui m'a présenté le jeu. Ah non, ça compte pas.
D'accord.
Donc, c'est le.
Que cela se reproduise plus.
Ah bon, voilà. C'est un jeu de Richard Garfield. Je dirais pas le prochain, parce qu'a priori, il en a plusieurs en préparation en ce moment.
Attends, qui ça?
De Richard Garfield, papa de
Magic l'Assemblée.
Ouais. Voilà, de Magic.
Et King of Tokyo. On peut dire ça, mais il vaut mieux dire Magic l'Assemblée.
Et voilà, et Netrunner, etc. Et donc, effectivement, Soulforge, ce sera un jeu de cartes à collectionner qui sera jouable uniquement de façon digitale, numérique. C'est-à-dire sur iPad, sur PC, sur Android, etc.
Multiplateforme.
Ouais, multiplateforme, normalement, on devrait pouvoir jouer contre des adversaires de tout type de plateforme. Ce sera. Alors, je dis ce sera parce que ça doit être printemps 2013 au mieux la sortie. C'est Gary Games, ceux qui font Ascension, qui sont derrière ça. Mais pas en collaboration avec Playdeck. A priori, je pourrais travailler avec un autre studio. Et donc, j'ai pu tester un petit peu le jeu. Alors, le jeu, on retrouve plein d'idées de Magic. Hein. On est des magiciens qui vont s'attaquer, qui vont jouer des cartes. Non, il n'y a pas de mana, justement.
Il
en a viré les manas. Le but, c'est quand même, on va s'attaquer sur 5 emplacements. Donc, on va placer une carte et par exemple un attaquant. Et si en face il y a pas de créature en face, on va pouvoir directement infliger des dégâts au magicien en face.
D'accord.
Comme dans Magic.
C'est simplifié alors.
S'il y a une créature en face, on va lui infliger des dégâts. On peut aussi mettre des murs, etc. La bonne idée du jeu, et c'est là que je pense que va venir toute la subtilité, c'est qu'il y a une petite notion de deck building. Une carte, elle a 3 niveaux.
Encore.
Ouais, mais
ça va commencer à être un peu lourd le deck building, mais
non, parce que je pense qu'on est encore loin d'avoir exploité toutes les finesses.
Ok.
Et on attendra le prochain mécanisme après, mais profitons de celui-là. Une carte, en fait, elle est en 3 niveaux. Et quand on joue la carte de niveau 1, automatiquement, on va placer dans sa défausse la carte de niveau 2. On pourra donc, c'est-à-dire que plus tard, quand on va repiocher, quand on va rebattre sa défausse, et en pioche, on va avoir des cartes plus puissantes.
C'est la question que je voulais te poser, étant donné qu'il n'y a pas de mana, comment est-ce que tu fais pour pas jouer immédiatement ta carte la plus puissante?
Et ben voilà, au départ, tu commences avec des cartes de niveau.
Tu les fais évoluer.
Tu vas les faire évoluer.
3,
ouais, ouais. Voilà, donc à mon avis, toute la subtilité va être dans cette partie-là. Bon, après, évidemment, on retrouve des bonnes idées de Garfield. On retrouve cette notion de montée en niveau qui peut être intéressante. Reste que je ne sais pas du tout au niveau tarification, etc., ce que ça donnera. On en reparlera au printemps, mais moi, ça me met l'eau à la bouche. Cette petite innovation-là peut être intéressante.
Innovation ?
Ouais.
D'accord. Très bien. Donc, alors ça, c'était le jour 3, c'était samedi.
Ouais, c'était le samedi. Ouais.
Et puis, ben, comme on vous l'a dit, on a repris notre avion, on est rentré en France, à Lyon. Et il s'est passé plein de choses depuis 2 semaines. On a eu des news, on a cherché un petit peu à développer ce qu'on avait vu sur Essen. Alors, on vous a parlé des mousses pour X-Wing.
Oui.
Notamment les mousses pour X-Wing.
Et on nous a posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait les trouver.
Oui, parce que c'était bien, mais on n'avait plus la place dans nos bagages.
Là,
et pour les figurines, c'est très très bien. Et
donc j'ai fait une petite enquête. Je crois que j'ai déjà mis la réponse dans les commentaires du site, mais pour tous ceux qui ne vont pas voir le site...
C'est mal.
Non,
venez voir le site.
Mais je ne dis pas ça.
Chacun non, mais moi je le dis. Venez nous dire si. Première chose, on est peut-être passé à côté de quelque chose. On est sans doute passé à côté de plein de choses à Essen. Venez sur le site. Dites-nous, vous avez raté ça, ça, ça et ça. Parce qu'on a vu plein de choses, mais c'est toujours très compliqué de tout voir, même en 5 jours de salon.
Moi, je pense qu'il faudrait faire des nocturnes. Quoi.
Surtout qu'on est resté que 4 jours. Et.
C'est pas beaucoup 4 jours de salon.
Et puis, dites-nous aussi si vous avez eu, par exemple, une expérience de briefcase qui n'était pas la même. C'est-à-dire que nous, on n'a pas aimé. On n'a pas trop aimé.
Ouais, j'ai vu certains sur leur photo Facebook, j'ai vu qu'ils avaient ramené des briefcases.
Allez sur notre site, dites-le-nous. C'est un endroit d'échange encore assez hospitalier où il n'y a pas beaucoup de trolls. Il n'y a même qu'un seul troll et il est un petit peu apprivoisé, donc tout va bien. Donc, n'hésitez pas. Cela dit,
on peut revenir Battlefoam.
Ouais. Les mousses. Donc on vous explique. Vous achetez X-Wing, la boîte de base. Vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Vous jetez à la poubelle tout sauf le
vaisseau plastique. Plastique quoi, ouais.
Voilà, les vaisseaux en plastique et puis tout ce qu'il y a avec la règle et puis les cartes. Et puis vous achetez des inserts en mousse. Vous remplacez l'intérieur de votre boîte par ces inserts et là vous pouvez mettre les figurines et 3 figurines de base, plus les extensions qui sont sorties jusqu'à présent.
Jusqu'à présent. Voilà,
jusqu'à présent.
Donc vous les mettez, comme ça, c'est bien protégé dans la boîte.
Et donc, classe.
Il y en existait, on avait dit, pour Dreadfleet, pour Special, etc.
Et donc, même pour Super Dungeon Explorer.
Ouais, pour
ça, on l'avait pas noté.
Voilà, et donc on a cherché, c'est les Anglais de Battlefoam qui font ça.
Ouais.
Et.
C'est Battlefoam 2, Modern Warfare.
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord.
Merveilleux.
Vas-y, enchaîne.
Et donc, on peut en trouver en France.
Et devinez chez qui ?
Ouais. Bah, il n'y en a qu'un de toute façon qui peut les avoir.
C'est ça.
C'est chez Ludic Bazar.
C'est notre sponsor, Ludic Bazar, sur ludicbazar.com. Et
on vous mettra le lien vers eux.
Vers eux.
Vers eux, vers toute la sélection de Battlefoam. Il faut savoir qu'ils ont sorti récemment une version pour Zombicide aussi, et qu'en plus les prix sont quasiment les mêmes que ce qu'on a vu sur le salon.
Non.
Moins cher. Vos 13% de réduction évidemment.
Ouais, c'est ça. Alors ça c'est une petite aparté parce qu'on reviendra sur le bazar. Les prix à Essen sont historiquement beaucoup plus bas qu'en France. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. N'allez pas à Essen pour faire des
À part les déstockages, sinon
ouais,
non.
Des bonnes affaires sur les jeux de l'année, ça n'existe plus. Et après, les déstockages, ça va toujours assez vite. Vous pouvez récupérer les jeux de l'année dernière ou de l'année d'avant pour pas très cher. Mais les jeux récents, préférez vos boutiques en ligne et préférez Ludic Bazar, par exemple. Alors, Ludic Bazar, ils font pas que du jeu de société. Ils font aussi des sacoches en cuir, des choses comme ça, pour mettre, par exemple, vos extensions de jeux de rôle et vos manuels de jeux de rôle.
Votre fouet, votre chapeau.
Quoi ? Ah non, ça c'est pour les soirées cuir moustache.
Ouais, non, mais c'est Indiana Jones qui se balade avec ses petites.
Ah merde, oui, d'accord, c'est ça. Et ils font aussi toutes ces goodies, dont ces mousses. Pour éventuellement X-Wing ou pour Super Dungeon Explorer. Donc ludicbazar.com, c'est avant tout du jeu de société neuf et d'occasion. Et on peut leur envoyer, je vous le rappelle, vous pouvez leur envoyer, si vous n'êtes pas content, les jeux de société que vous achetez, c'est-à-dire vous renvoyez le jeu, on vous reprend 5€, mais on vous fait un avoir sur le jeu, donc c'est pas mal. Surtout pour les gros jeux, si vous êtes trompé, ben, vous pouvez les renvoyer. Et puis, le petit plus, dans cette boutique, vous avez aussi des mousses qui sont moins chères qu'à Essen si vous avez la carte de fidélité. Alors, on a dit tout à l'heure, Oui, ok. Jusqu'à présent, on peut mettre tout dedans. C'est-à-dire qu'on peut mettre et la boîte de base plus un exemplaire ou pas beaucoup plus d'un exemplaire de chaque extension. Je sais pas exactement. Néanmoins, ça va se gâter puisque Fantasy Flight Games annonce de nouveaux vaisseaux, dont le Faucon Millennium. Alors excusez du peu, hein, ça pète quand même de se faire chasser par des...
Alors un truc énorme, hein, je crois, hein, il va faire genre 10 cm de diamètre ou pas.
Il va être vendu 40€.
30€, ouais.
Ouais, bah voilà.
Bah, normal, quoi.
Pour une figurine.
Bah, dire quand on aime, on compte pas. Hein.
Ouais, mais alors là, il va falloir se spécialiser, hein, parce que déjà, je trouvais ça cher, les miniatures de petits avions de Wings of War.
Non, mais des Faucons, un seul te suffit, quoi.
Bah, il y en a qu'un seul, de toute façon.
Bah, voilà, des TIE Fighters, c'est normal. Il faut que t'aies une petite flotte. Faut que t'en aies une petite trentaine, tu vois, je veux dire.
Mais il y a pas vite, hein, le TIE Fighter.
Mais il y a qu'un faucon, quoi.
C'est ça. Et puis, vous trouverez, alors, des Slave E et des A-Wings. Donc, ils continuent dans les différents modèles. Je pense que le jeu a l'air d'être très bon. Moi, j'ai pas craqué parce que c'est vraiment une petite fortune si vraiment on veut s'y mettre. Enfin, au bas mot, pour avoir une collection complète, et elle, c'est pas énorme. On en a déjà pour 150 ou 200€.
Ouais, quand on aime, on compte pas.
Ouais, ok.
Quand je suis arrivé là chez toi, là, sur ta table, là, il y avait tout Battle Lore. Est-ce que t'as fait le calcul de combien t'as claqué dans Battle Lore?
Ouais, mais bon, quand même. Bon, d'accord, ok. Okay. Donc, les mousses chez Luc Bazar, et puis X-Wing. chez Luc Bazar aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous trouverez.
Je connais pas trop les noms des vaisseaux, mais tu crois qu'on dit Slave E ou le Slave One?
Je sais pas. Je suis enrhumé, c'est pour ça que je prononce mal.
Ah oui, oui.
Puisqu'on en est sur les boutiques, on va peut-être parler de la boutique Carcassonne, puisque t'as essayé.
Ouais,
puisque je t'ai volé le dernier set de sous-boc du dimanche.
Petite histoire du jour 4 quand même.
Ouais.
Pendant qu'on testait Northwest Passage, il y a Dédé qui est arrivé et qui me dit: regardez, j'ai eu les derniers sous-boc Carcassonne.
Dédé chutes.
Alors non, on était un petit peu dégoûté. Mais bon, après, on les a laissés faire leur partie de Northwest Passage et nous, on est allés voir. Et il nous dit: ah oui, j'en ai plus. Le vendeur dit: ah, j'en ai plus. On dit: ah ouais, mais vous pouvez les commander en ligne. On dit: oui, mais on a regardé les frais de port. C'est 23€ les frais de port.
C'est prohibitif.
Ah ouais, c'est vrai. Ah bon, ok. Bon, alors hop, il en a ressorti de son étalage. Il en restait. Donc il nous a donné le nouveau dernier set de sous-boc. On sait pas combien il y a de derniers sets.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme certaines jeunes filles.
Voilà. Mais c'était Olivier, donc, qui a eu le dernier set.
Le privilège d'avoir le dernier set du dimanche.
Du salon, voilà. Du dimanche.
Parce qu'il y a peut-être
du dimanche 11h. Il y en avait d'autres. Et donc, moi, il a fallu que j'aille commander sur le fameux site cunco.de ou .com, je ne sais plus. Et il faut faire très attention parce que jusqu'à 10€ d'achat, on en a pour 4€ de frais de port.
Ouais.
Et quand on dépasse les 10€, on en a pour 23€ de frais de port. Donc,
tu veux dire que dès que tu dépasses les 10€, il faut vraiment y aller à fond?
Bah ouais, je pense, ouais.
Et puis, il faut se mettre ouais.
Donc, si tu veux des sous-bocs à 9€...
À 5 ou 6.
C'était 9€. Non, c'est 7€ les sous-bocs, je sais plus, 9€, j'ai mangé le truc. Non, c'était 9€.
Ouais, parce qu'on s'est arrangé...
Ouais, c'était à 9€ les sous-bocs, voilà, c'est ça. Donc, 9€, mais moi, c'était 1€, autant dire que tu prends rien d'autre. Parce que sinon, tu dépasses. Et donc, j'ai passé la commande. Alors, l'avantage, c'est que sur le salon, ils avaient donné une petite carte postale qui donnait un code qui permettait de réduire 2€. La facture, donc ça a divisé un petit peu mes frais de port. Mais
c'est calcul d'apothicaire pour pas payer le port, c'est bon.
Ah ouais, mais bon, ah ouais, bah 23€, ça fait un petit peu cher.
En plus, t'étais à Essen, donc c'est un petit peu, ça fait mal aux fesses de devoir encore payer les frais de port.
Ah, c'est ça. Et attendre un an, ça m'embêtait aussi un petit peu.
Ouais.
Et donc je suis.
Vous rendez compte, c'est là qu'on voit qu'on est quand même grave atteint.
On est quand même grave atteint. Ouais.
Attendre un an pour avoir mes sous-bocs Carcassonne, quand même, je peux pas. Il faut que je commande tout de suite. Et vous voyez, ça fait 2 semaines à déjà commander.
Non, mais j'ai commandé dès le dimanche soir.
C'est de l'autocritique.
Le dimanche du retour, je les avais commandés. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est au moment de valider l'achat. On dit: ah bah oui, mais alors maintenant, il faut nous faire un virement sur tel compte. Ah bon?
Et pas PayPal.
Et la carte bleue et PayPal. Et non, c'est l'Allemagne. C'est merveilleux. Ouais.
Donc, envoyez-nous du liquide.
Ouais, on n'était pas loin. Hein. Je l'ai déjà eu fait ceci sur des achats ebay.de. Alors, donc il a fallu que j'imprime le RIB, que je le demande à ma banque de l'enregistrer pour que je puisse faire le virement. Parce qu'en plus, c'est un RIB étranger, donc je te dis pas. Donc, c'est une petite galère pour y arriver. Au final, j'ai fait mon virement. J'ai plus de nouvelles, mais j'espère bien les recevoir.
Ça fait 15 jours.
Ça fera
15 jours dimanche.
Ça fera bientôt 2 semaines. Ouais.
D'accord. Bon.
Bon, je pense que je les recevrai d'ici une semaine, mais bon. Je vous dirai quand même si un jour je les reçois.
Oui, et puis on vous mettra l'URL de la boutique sur le site.
Voilà, c'était juste parce que bon.
Alors, quelques nouvelles suite au salon. Il semblerait que les tuiles de Myrmès, au moins les exemplaires de Myrmès qui étaient en vente sur le salon, salon ne soit pas correct.
Ouais, c'était un prix tirage hein, qui était spécialement dédié pour le salon.
Et en fait, Mirmes, il y a des tuiles spéciales qui permettent d'avoir soit de la nourriture, soit des matières premières, de la pierre ou du bois. Je ne sais pas si c'est du bois, en fait.
Des brindilles.
Des brindilles. Et en fait, visiblement, il y a eu une erreur, c'est-à-dire que les impressions ne sont pas telles qu'elles auraient dû être. Cyril Distari a bien envoyé des bons fichiers, mais ils n'ont pas été pris en compte. Et en fin de compte, alors c'est un pré-tirage, on espère que la version finale sera pas de la même façon, mais je pense que c'est tiré de la même façon. Ça correspond pas à ce qui avait été prévu au départ. C'est pas grave. C'est-à-dire que toujours la même personne, Cyril Distari, dit on peut avoir un problème avec cette configuration-là, mais dans 1% des parties. Alors autant dire que si vous faites 100 parties, peut-être que vous aurez une partie qui va foirer. Oh mais là faites là les 99 là. Premières et puis après on verra.
Et si on peut quand même télécharger les tuiles correctrices ?
Oui. Oui, pardon. Oui, parce que je fais mon méchant en disant c'est... Voilà. Mais non, encore une fois, sur le site d'Istari, on vous mettra ça sur le blog de Proxy Jeux, podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. On vous renverra vers le site. Mais voilà, Mirmes, très bon jeu. Sans doute un des tout meilleurs jeux du salon, mais dont on n'a pas parlé parce qu'on l'a essayé à Octogone et on va attendre de l'avoir sous la main pour y rejouer. Mais
il arrive mi-novembre, a priori, en France.
Pour le sapin.
Ou avant, me connaissant. Et je pourrais pas attendre.
Tu peux pas attendre l'année prochaine.
Je peux pas attendre le 25 décembre. Bah ça, c'est évident. C'est évident. Et en passage aussi, il y avait Homesteaders qui a priori avait un défaut sur des tuiles. Il y a une procédure de remplacement. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas de lien en tête. Il faudrait que je le mette sur le site, évidemment. Encore du boulot. Pour le rédacteur.
Et puis, on avait un scoop. En partant de la messe, on avait un scoop. On est passé sur le stand de Zenman Game et qu'est-ce qu'on voit ? Des Robinson Crusoe. Donc on a su précédemment que Yellow est en tractation pour franciser.
On a supposé en fait.
Non. On a su que Yellow est en tractation pour Robinson. Mm. Mais donc ils vont bien sortir un Robinson, mais c'est le Robinson de Genix. Et le Robinson Crusoe, celui de Portal, va être francisé. Certainement chez Philo, certainement l'année prochaine, assez rapidement en fin de compte. Le jeu est en test chez nous et on vous en dira plus assez prochainement.
La bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il va arriver rapidement et on l'aura bien en 2013 et que ça va être de qualité.
Ouais, et ça va être une vraie bonne nouvelle parce qu'il y a énormément de texte sur les cartes. Enfin, il y a vraiment. Moi, je suis allé à. Moi, je m'en fous, je triche la semaine dernière. J'ai pas pu le faire tester justement parce que les personnes n'étaient pas assez confortables avec l'anglais.
C'est le problème.
Et bah c'est pas passé quoi.
Voilà. Donc après par contre la question c'est comme c'est philo et qui était déjà cher en version originale.
Et bah 75€.
J'ai peur effectivement qu'on frôle les... bon 50€ ça passe encore.
C'est pas toi qui as dit quand on aime on ne compte pas. En plus il y a plein de matos dans la boîte.
Ah mais j'ai pas dit le contraire. Je préviens juste faut se préparer quoi. Ça veut dire mettez déjà maintenant 1€ tous les jours en passant devant une cagnotte, même passer plusieurs fois hein, parce que pour préparer vos achats de 2013.
Et donc Robinson Crusoe, c'est le coop de Portal qui n'a pas de leader et qui vous fait vivre des scénarios sur une île déserte. Et c'est pas mal. C'est pour ce qu'on en a vu, la partie qu'on a faite, la demi-partie qu'on en a faite, c'est vraiment, pour moi, ça change vraiment des coops que je connais. Et c'est vraiment très prometteur. On va en faire plusieurs scénarios et puis on vous en parlera. Et puis
un petit break pour une bière.
Ouais.
Du fait d'avoir pris l'avion, forcément, on était un petit peu limité dans les bagages. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que le dimanche matin, quand on a fait nos valises avec Olivier,
on a eu peur.
Déjà, on les fermait juste et on flippait un petit peu parce qu'on se disait, oulala, mais elles font 30 kilos. Parce que normalement, on a le droit qu'à 23 kilos à l'aéroport. Donc, gros coup de flip. On a croisé Ludo le gars qui nous a filé des sacs cabas au cas où pour les faire passer en bagage cabine.
Merci Ludo.
Merci Ludo. Si tu reveux tes sacs cabas, bah dis-moi, sinon je les recyclerai. Et en fait, il s'est trouvé qu'en arrivant à l'aéroport, quand on les a passés sur la balance, la mienne faisait 22,1 kg et celle de l'Olivier
24 et des poussières.
Donc on était vraiment juste à la limite finalement, il n'y avait pas de quoi paniquer, ouais. Mais il n'y avait pas non plus de quoi ramener plus de jeux.
Non. Mais c'est bien, j'ai ramené 8 jeux et ça c'est parfait, ou 9 jeux, c'était parfait.
Ouais, moi aussi j'en ai ramené 9, et c'est pour ça que dès lundi, parce que bon, quand même, hein, j'ai craqué, que ramener que 9 jeux des Suns, c'est pas normal. Donc j'ai aussi fait le tour des boutiques pour compléter mon butin de Essen, donc prendre vraiment les nouveautés du salon. Et j'ai pris Keyflower, que nous n'avons pas pu tester sur place, mais qui avait bonne presse, et Richard Breeze, je fais confiance, presque
ouais,
aveugle.
Ouais.
Homesteaders, parce que on nous le survend depuis tellement longtemps, merci Thomas. Mais à chaque fois que Thomas m'a survendu des jeux, j'ai jamais été déçu, donc je lui fais confiance aussi.
Thomas, que nous souhaitons avoir à ce micro un jour.
Ouais.
Donc voilà, c'est plébiscité. Voilà. Si vous avez envie d'entendre parler de jeux de train, notamment, vous nous laissez un tout petit commentaire en disant « Oui, je vais entendre parler de jeux de train et Thomas va nous en parler. »
Très bien. J'ai ramené aussi le...
Mais on peut y croire, hein, c'est comme ça, en fait, c'est la méthode Coué.
Ouais, 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 bien sûr. D'ailleurs, Thomas, tu vas faire pause, là, tout de suite, là, puis tu appelles Olivier. Voilà, et on fixe une date.
Voilà.
Bloc tes lundi soir. Donc ensuite, j'ai ramené le nouveau Friedman Freeze, là, donc Copycat.
Ah, mais tu l'as acheté ?
En anglais, et Frame de Federn, sinon, ouais. Il me manque, si j'ai trouvé une traduction française de la règle, ça y est, aujourd'hui, parce que.
Très bien.
Tout en allemand, c'était un peu chaud.
Moi, je vais attendre, parce qu'il en fait un sur deux de bien, donc je vais attendre de voir si c'est une bonne cuvée ou pas.
C'est vrai que c'était pas mal, l'étincelle l'année dernière. Bon, de toute façon, au pire, il repartira à la revente.
Ouais.
Il faut pas que je traîne trop pour le tester. Mais comme j'en ai 10 autres, je sais pas comment je vais faire. Et j'ai aussi ramené, coup. Un petit jeu de cartes, dont on a entendu, ouais, coupe. Comme coup d'état, ou qui est un jeu de bluff qui a l'air pas mal, j'ai lu la règle, à mon avis, pour jouer à plusieurs, c'est très bien. Je pense que ça change un peu du style résistance, etc. Il y a du bluff, on prétend qu'on joue des rôles, mais il n'y a pas vraiment moyen de le vérifier. Chaque rôle nous donne des actions, comme de récupérer des pièces, notamment.
Tu triches?
Et tu vas pouvoir attaquer les autres. Tu triches pas, parce qu'à n'importe quel moment, un joueur peut dénoncer, dire non, tu ne joues pas ce rôle-là, mais tu joues toujours deux rôles en parallèle.
Oh là là. D'accord.
Et okay. Tu peux changer les rôles, etc. Puis il y a une partie bluff. En fait, en gros, c'est que si tu commences à déclarer au fil des tours que tu as tous les rôles à la fois, ça va pas marcher. Donc ça doit être là-dessus, c'est subtil. Bref, j'ai entendu pas mal de gens qui trouvaient ça bien.
Dont Ludo Lega.
Dont Ludo Lega, dont Antoine Boza.
Ça va.
Donc on dira pas de mal. Donc, bref, j'essaye. À mon avis, c'est genre de truc qui passe bien en fin de soirée. Et puis, qu'est-ce qu'il m'en manque dans la sélection? CO2, bien sûr, parce que je ne l'ai pas ramené de Sun.
Et donc tout ça, on vous en parlera dans les prochaines semaines. On va essayer de jouer et puis on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense.
Il va manquer Ginkopolis et Myrmes qui attendront leur arrivée en novembre.
Oui, ok.
Voilà, donc ça fait finalement une belle collection.
Oui, 15, 20, 25 jeux.
Et puis Western Town aussi, n'oublions pas, quand il est sorti.
Ça va, c'est pas 25 jeux, c'est peut-être l'équivalent d'une.
C'est un Essen normal.
C'est l'équivalent d'une collection d'un joueur normal, mais bon bref, passons.
Oui, oui, bah, faut pas dire aux gens combien de jeux chez nous.
Alors, Essen 2012, c'est fini. On va peut-être. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit top et flop. Ce qu'on a aimé, et puis ce qu'on a moins aimé, ce qui était bien, puis ce qui était pas bien.
Non.
Je vais commencer.
Vas-y, mais on va arriver. Non, on va voir les mêmes.
Alors, les plus, l'Atlantic Hotel.
Ah putain, c'était mon premier aussi.
Il y a 2 ans ou 3 ans. Quel âge il a, 2 ans?
Il a 2 ans, ouais. Enfin, c'est la troisième année, en fait, là. Qui a...
C'est été inauguré sur le parking de la MSE, donc du salon. Un hôtel, grand luxe, qui s'appelle l'Atlantic Hotel. Il y a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est super classe.
C'est un 4 étoiles, je crois.
C'est un 4 étoiles équivalent Mercure ou même un peu plus. C'est super près. Et ça, c'est un vrai, vrai avantage. C'est-à-dire ne pas avoir ni à prendre de transport en commun, ni à prendre de camion, ni de voiture.
Tu
n'as
même pas voulu faire tes lacets presque à tes baskets. Quoi.
C'est ça. Et cette année, on n'a même pas eu à mettre de pull pour traverser. C'est un grand luxe. C'est vraiment du luxe, encore une fois. Et il y a tout le monde. On a vu les gens de Stronghold Game, on a vu les Belges, on a vu Cyril Distari, on a vu plein de monde, on a vu Hicham de Batagot. Tout le monde était là, c'est the place to be pour rencontrer des gens.
On a vu Manu.
Lui aussi, Manuel Bertrando.
Manuel Bertrando, voilà.
Donc c'est super classe, c'est super cher. Mais c'est super classe.
Oh, ça va encore. Et puis en plus, non, mais, je veux dire par rapport à, parce que l'Atlantique, ils sont quand même super cool avec nous.
Non, d'accord.
Ils sont super, super cool avec nous. Et en plus, donc, ils nous ont surclassé. Donc, je trouve pas super cher quand on a une piole de 50 mètres carrés.
Ouais.
Qui fait rêver n'importe quel Parisien.
N'est-ce pas?
On peut mettre deux fois son appart.
C'est pas. Mais j'ai cru que t'allais dire. Mais étant donné qu'on était en avion, c'est pas grave parce qu'en fait, on a ramené moins de jeux. Donc, on a pu se payer l'hôtel. Moi, oui. Toi, c'est un peu différent.
Sur place, sur place, je sais pas, claquer voilà. Tant que ça dans les jeux.
Ouais, c'est ça.
J'ai claqué plus dans l'hôtel que dans les jeux cette année. Bon, il y a surtout, salon, mais
on a bien mangé aussi.
Ouais, alors, par contre, on n'a pas testé la gastronomie, le buffet. J'ai vu que les gens, a priori, apprécient énormément le buffet de l'hôtel, mais c'est un cap psychologique qu'on n'arrive pas à franchir quand même. C'est comme le prix d'un jeu, quoi, le buffet.
Alors, Jérémy, un plus.
Un plus? Un autre plus que celui-là?
Ouais.
On peut dire l'avion aussi?
Oui, bien sûr.
L'avion, c'est quand même cool. Le dimanche soir, je suis rentré... quitter le salon à un peu plus de 14h et être à 19h chez soi, pas fatigué, bah finalement, c'est pas mal du tout. J'ai peur qu'on m'y reprenne l'année prochaine.
Ouais, je remercie Madame Gauthier qui m'a ramené jusqu'à chez moi, donc j'ai pu payer le taxi, j'étais content, ni à prendre le bus. Oui, effectivement, je regrette le voyage en van, parce que le voyage en van, c'était quand même c'est un pèlerinage, tu sais, on part le matin à 8h, on arrive sur le parking de la Messe à 17h30.
Mais on est fatigué, parce qu'on nous on conduit.
Ouais, mais c'est un truc que t'attends toute l'année, quoi. C'est ça que t'attends toute l'année d'être dans le bus et puis raconter des conneries et puis voilà. Et puis laisser derrière toi. Jouer à Mario Kart, pas moi, mais parce que voilà. Mais et puis les autoroutes allemandes, ça c'était un truc que je regrette. Mais effectivement, c'est super pratique de prendre l'avion. C'est pas loin de Düsseldorf et effectivement c'est pas mal. Ce que j'ai aimé, les auditeurs de Proxy Jeux. Moi, j'étais super content de toutes les rencontres que j'ai fait cette année. J'ai l'habitude de dire que Essen, c'est le moment où je fais beaucoup de rencontres. Je fais pas beaucoup de salons. Je vais essayer de refaire Cannes. Et puis, comme on est dans l'est de la France, on a du mal à aller plutôt vers
un corsaire ludique, par exemple.
Un corsaire ludique ou la semaine
appartenait
ou appartenait. Mais par contre, Cannes, c'est pas très très loin. On pourrait aussi faire Paris ludique.
S'ils n'avaient pas la mauvaise idée de les programmer les mêmes
pendant qu'on fait des podcasts.
Mais bon, il faut qu'on synchronise un peu mieux nos agendas cette année.
Et cette année, on a vu plein de monde. On a vraiment, vraiment, vraiment parlé, que ce soit avec les Ludochons, que ce soit avec des auteurs, que ce soit avec vous, cher public. Ça a été très, 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 très agréable de vous voir, de vous rencontrer. Je vais pas vous citer parce que je vais en oublier plein, mais merci à tous ceux qui étaient là le vendredi après-midi. On a passé 2 heures à papoter à la cafette. Merci pour les bières.
Je crois qu'on l'a pas remercié en live, enfin en direct lors d'un podcast, on l'a mis dans les billets, mais pas en vrai. Donc merci.
C'était pas dans le. Néanmoins, merci, c'était super sympa. Et moi, je suis très content de faire ce podcast parce que ça nous permet d'avoir des relations très très sympathiques, très intéressantes avec nos auditeurs. Et encore une fois, c'est ça que je retire du salon.
Beaucoup de rencontres, donc.
Voilà.
Il en a
beaucoup de rencontres et des bonnes rencontres.
Il est ému. Il est... Oh là là.
Ensuite, next.
Beaucoup de tests, beaucoup de jeux. Plus, c'est vraiment, on a beaucoup joué cette année. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que je le dis chaque année, mais cette année, en plus, on a joué à des jeux à du corps, quoi. On a joué à CO2, on a joué
à Zimbabwe.
Donc, des jeux où on reste pas juste un petit quart d'heure sur une table, bien sûr, on en fait. Mais il y a aussi des jeux où on n'a pas hésité à rester 1h30, 2h. Bon, des fois, il faut une double explication de règles, etc. Mais. N'empêche, vraiment, ce qui fait que les journées sont passées super vite, mais malgré tout, on a vraiment pu tester les jeux. Et cette année, on n'hésitait pas effectivement à réserver des tables. Ça,
c'est ça,
que...
c'était un de mes plus, c'était les réservations de tables qui nous ont permis justement de jouer à Zimbabwe ou à CO2 et de se dire à le samedi après-midi, alors qu'il va y avoir plein de monde dans les allées, ben moi, je vais pouvoir me mettre mon cul sur ma chaise et puis
faire une réservée. Ouais. Et ça, c'était un truc l'année dernière après le salon où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, là-dessus, on avait complètement raté et c'était pénible. Et du coup, cette année, en pouvant passer... Alors, j'ai pas pu réserver avant, j'ai fait des mails aux éditeurs, j'ai pas eu de réponse.
Ouais.
Mais par contre, en passant sur le stand avant et en demandant, est-ce que je peux réserver une table? Ils disent pas de problème. Et hop,
parfois, ça passe.
Keyflower, on pouvait pas. Ben,
Robinson Crusoe non plus.
Robinson, non, on s'est débrouillé autrement.
Bah, c'est le passe-presse, c'est rentrer un peu plus tôt et puis être là le premier sur la table, c'est malheureusement, parce que pour le grand public, ça permet.
Bon, ça va être d'autres tables.
C'est dans mes mois. Ça, c'est la faible disponibilité des tables. Mais bon. Donc, jouer. La réservation de table. Moi, j'ai trouvé que, de fait, j'ai mis dans le biais moins de monde. Dans mon Evernote, j'ai mis moins de monde. Mais je pense que c'était qu'une vue de l'esprit.
En fait, c'est une vue de l'esprit, puisqu'ils disent que cette année, il y a eu 149 000 visiteurs, et il y en avait 147 000 l'année dernière. Alors, tu me diras, les 2 000, on ne les sent pas. La différence...
hein, 2 000 personnes, on ne les sent pas.
Bah non, déjà, sur 4 jours en plus, on fait 500 par jour. Non, la différence avec l'année dernière, c'est qu'il y avait les vacances là-bas. C'est-à-dire que du coup, la foule, elle s'est beaucoup plus lissée, à mon avis, sur les 4 jours. Parce que le jeudi, c'est vrai que le jeudi ou le vendredi midi, je me disais déjà, mais c'est déjà blindé, comment on va tenir samedi? Mais en fait, non, ça s'est lissé sur les jours.
Et puis on a joué samedi.
Et puis samedi, on a joué, donc peut-être que je m'en suis pas rendu compte.
Ouais, c'est ça. C'est pour moi, c'est concomitant. C'est-à-dire qu'on a, eu une table et puis donc on a pu jouer.
Il faut dire aussi qu'on a passé du temps, ouais, au bar le vendredi avec nos auditeurs, etc. Donc il y a pas mal de temps, on est resté effectivement assis, on n'a pas vu les gens.
Ah ben quand sur une journée de 9h, de 10h, tu passes 4h à papoter, ça fait un peu plus court quand même.
C'est ça.
Ok, autre chose en plus?
Non, moi je...
Alors moi j'ai autre chose, la Wurst.
La Wurst?
Ouais.
Mais c'est chaque année ça.
Oui, mais je me souviens...
Une année sans Bifi.
Je me souviens du... Oui, il n'y avait pas de Bifi, mais on a mangé de la Wurst, et notamment le samedi. Le samedi, au petit déjeuner, j'ai eu des œufs au bacon avec de la Wurst, donc de la saucisse. Et le midi, j'ai eu une saucisse dans un pain. Et le soir, j'ai eu de la viande et il y avait de la Wurst aussi. Mais voilà, pour moi, le plus de cette année, c'était la Wurst.
Ah, par contre, un des avantages d'avoir été avec l'Atlantic Hotel, c'est qu'il y a un peu plus de choix dans les restos. C'est vrai que c'était sympa. Au moins, tous les soirs, on a mangé différemment.
C'est ça que la pizza aux pâtes. Ouais, mais la pizza aux pâtes, on a mangé de la pizza kebab.
Ouais, voilà. C'est toi. Sans sauce. sans salade.
Les moins, parce qu'il y a des moins aussi.
Il y a des moins?
Ouais, il y a des moins. Alors pour
ça,
moi.
C'est magique, pour moi, c'est toujours magique.
Le moins. Oui, oui, non, mais c'est pas rédhibitoire, c'est pas. Ah, c'était pas bien. C'était. Ça aurait pu être mieux, c'est. Pas de blockbuster.
Ah, pas de jeux qui buzz, qui sortent du lot, tu veux dire?
Pas de 2 millions.
Un 2 millions.
Ah, mais bon, un 2 millions, c'est une fois tous les 5 ans. Donc
voilà, c'est ça. Mais c'est bientôt, c'est bientôt, c'est l'année prochaine. Hein. Ouais. Les gars, il va falloir vous y mettre là.
Pas de FFG en anglais. C'est-à-dire qu'on a Fantasy Flight Games, on a plein de tables, plein de choses. On a plein de jeux FFG pas trop chers. On avait même des risques Legacy. Ça, on parle plus, on sort de FFG, mais on avait des risques Legacy à 35 euros.
Ouais, mais c'est sauf qu'ils étaient en.
Normalement.
C'était Risk Evolution.
Donc beaucoup de choses en allemand, pas forcément en anglais pour un salon qui est quand même
dans
très
dans les déstockages et FFG, il y avait des trucs, hein, on n'a pas craqué, mais parce qu'on n'est pas passé. Il y avait des figurines pour Wings of War à pas très cher, mais on n'a pas craqué.
Non, c'est parce que moi j'ai craqué l'année dernière, c'est pour ça.
Ah bah moi j'ai hésité, puis finalement après coup, tu vois, c'est maintenant que j'y repense là, d'un coup je parle FFG, ouais, mais ouais. Ça m'avait pas manqué. Non, je vais falloir que j'y retourne.
Et moi, je les avais pris en allemand. Bref. Et puis, en même temps qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux en anglais, il n'y avait pas non plus beaucoup de tables chez certains éditeurs. C'est-à-dire que les Français qui sont dans le Hall 12 se sont mutualisés, ont mutualisé leurs moyens. Et donc, il y a beaucoup de tables où on peut jouer à plein de choses. Si vous allez chez Portal ou si vous allez chez 2F Spiel, ben, il y a deux tables. Il y a
chez 2F, il y a un peu plus, mais elles sont de toute façon prises d'assaut.
Oui, un peu plus. Il y en a trois, quoi.
Quatre tables, ouais, ouais, genre, ouais. Ouais, et puis surtout, ils sont placés à l'endroit où il y a toujours du monde.
Et puis ça buzz, et c'est compliqué de jouer. C'est malheureux qu'on puisse pas jouer un peu plus.
Je regrette,
chez ces
ouais.
éditeurs-là.
Les années où Rio Grande avait une grande superficie, il y avait, je sais pas combien, il y avait 20 tables, 30 tables de jeu. Alors, c'était des jeux en anglais. Les personnes du stand connaissaient mal les règles du jeu, donc valait mieux les lire. Mais au moins, on pouvait tester un paquet de jeux. Donc ça, c'était vraiment bien. Ça, on peut plus. Mais bon, globalement, on a quand même testé. Enfin, par rapport à la liste qu'on avait faite à l'avance des jeux qu'on voulait regarder, etc.
On en a vu pas mal.
On a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir.
T'as des moins, toi, ou pas?
Bah, tu vois ta note. Alors, je sais, un témoin, c'est le prix des jeux. Et effectivement,
oui.
C'est un gros constat, c'est-à-dire que.
Mais what the fuck? Mais ouais, diantre!
Ça monte, les prix.
Ah bah oui, un jeu avec. Combien j'ai payé Thomason Crossway, 45 euros?
Ouais, le prix moyen maintenant, on est dans les 40 euros facilement.
Ouais, mais 45 euros, là, on est vraiment sur. Alors, c'est une boîte qui est pas énorme.
C'est 45 aussi. En fait, moi, j'ai ramené dans mes bagages, j'ai trois boîtes à 50 euros chacune. Ouais.
Ouais.
Ça commence à faire un petit peu mal.
Alors, certains diront que c'est un rééquilibrage, qu'on se retrouve à avoir des prix qui sont les mêmes qu'en France, que par à un moment donné, enfin, que partout, qu'à un moment donné, il y avait une guerre des prix en Allemagne et que ça tue un petit peu le. Oui. Oui, mais c'est monter lentement, en fait, jusqu'à arriver jusqu'à maintenant.
Quoi. Ouais, mais alors, par exemple. J'ai racheté un petit jeu chez Adlung.
Prenons un exemple.
J'ai pris donc les jeux il y a 10 ans, ça valait un jeu à 25 euros. C'était trop cher pour les Allemands. Je vais citer un petit peu. Un Puerto Rico, c'était 23-24 euros sur le salon
ouais.
en 2003.
Ouais.
Donc pas tout à fait 10 ans. Et à côté, il y a les jeux Adlung. Alors Adlung, c'est un petit éditeur de jeux de cartes. Vous connaissez peut-être Speed, vous connaissez peut-être des petits jeux comme ça. Cette année, j'en ai acheté un.
Oui.
6,50 euros, j'ai payé sur le salon. Il y a 10 ans, Ça devait être 5€ le jeu sur le salon.
Bah ça va.
L'inflation est très faible chez eux. Tu te demandes comment ils survivent quand à côté les jeux ont quasiment doublé chez les autres éditeurs. Ouais. C'est incroyable. Alors ceci dit, les graphismes, même si les Allemands sont pas au niveau des Français, il y a un développement graphique qui est bien plus important dans le développement des jeux maintenant notamment. Donc je pense qu'ils se mettent pas du tout dans les poches. Hein. C'est que la production d'un jeu doit coûter plus cher aussi. Parce que maintenant, on veut des beaux jeux.
Avec plein de matériel. Je redis pour Robinson, il y a quand même 3 paquets de cartes, ouais. Il y a des dés, il y a plein de choses.
Le prix de Robinson ne paraît pas surévalué. Mais il y a des jeux, par contre, où ça fait un peu plus mal.
Et, oui.
Et puis, il y avait par exemple le jeu qui a le plus buzzé, c'était Terra Mystica. C'était genre 60€, je crois.
Oui, puis alors ça, alors tu fais une belle transition. C'est un moins aussi pour moi par rapport à CSN. C'est les jeux premiers fair-play, sold out.
Ouais, alors Terra Mystica... Pour la petite histoire, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés un petit peu plantés. Il y avait eu des précommandes, ils n'ont pas reçu plus de stock.
Comme l'année dernière, ok.
Ouais, ils se sont fait planter, ils n'ont pas pu recevoir le stock. Et donc, ils offraient sur le salon, pour le commander, et ils offraient les frais de port pour être livrés. Terra Mystica, c'est un jeu un peu... Pour moi, je te fais expliquer rapidement le concept, c'est un peu un jeu d'aventure, on va faire évoluer, c'est des personnages, enfin, on va faire évoluer des choses. Je me rappelle plus...
Un jeu de développement.
Un jeu de développement, mais plutôt orienté quand même un petit peu RPG. Et
mais c'est pas du tout ce que la boîte fait. Ça donne plus.
Le matos était un peu austère quand même.
Oui, tout à fait.
Mais il y avait du matos. Hein. Ça, les 60€, c'est pareil, c'est pas volé. Il y a des grosses pièces en bois. Et, enfin bref. Donc,
Ah oui, parce que cher auditeur, il faut quand même rappeler que faire un jeu, ça coûte quand même de l'argent. Et plus il y a du matériel, et plus ça coûte de l'argent. Avant, on payait pas les illustrateurs. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie du jeu et les illustrateurs sont de mieux en mieux payés. Et tant mieux pour eux, mais
je sais pas, les Allemands, s'ils ont compris l'importance des illustrations encore. Les Français,
non,
oui.
Non, mais tu prends. Alors, les Allemands, peut-être pas. Par contre, Portal et les Polonais Portal, quand tu prends Robinson Crusoe,
c'est
super. Tu vois qu'il y a un vrai travail graphique. Ils sont vraiment penchés dessus et ils font du super travail, de toute façon.
Même Tolkien qui avait, on va dire, des couleurs vives, des couleurs. Enfin, c'était quand même. Esthétiquement, c'est correct, Tolkien.
Oui, mais c'est pas allemand.
Mais c'est pas, bah non, c'est pas allemand. Un jeu allemand, à mon avis, ferait pas des couleurs aussi flashy aussi.
Ah bah non, il faut pas quand même.
Non, faut que ça passe.
Je peux devenir aveugle.
Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et il y avait Tokaido, notamment. On parle des jeux sold out. Tokaido s'est retrouvé victime de son succès. Les jeux achètent Tokaido juste parce qu'il est super beau, en fait. Je dis pas que le jeu est mauvais, hein. Attention, hein. Je ne me permettrai pas de dire ça.
Non, ça fait partie des jeux qu'on n'a pas achetés en Allemagne parce qu'on va les trouver très facilement en boutique française. Et que on attend de les avoir, on les aura par un autre biais. Donc
je vais le tester.
C'est pas ça. On vous rappelle Trends qu'on a pris un peu.
J'ai lu la règle de Trends. Alors pour
t'as vrai. Lu la règle.
Ouais.
Encore
fort.
Un deck building game.
Le jeudi soir, on a voulu tester Trends. Et oui. puis c'était 11h30 du soir. On n'a pas réussi à se motiver à lire la règle en anglais.
Mais il y a une règle en français dans la boîte.
Alors qu'en fait, il y avait la règle en français pas dans la boîte, mais dans la petite extension qui avait à côté. J'ai découvert de retour. A priori, la lecture de la règle, c'est plutôt un. On est plus proche d'un Thunderstone, c'est-à-dire avec une partie un petit peu village. Alors, à ton tour de jeu, t'as pas le choix d'action, etc. On est plus proche d'un Thunderstone avec, sauf qu'on joue sur un plateau. Vous allez buter des monstres dans un donjon. On va développer un réseau sur une carte. Et je pense que le plateau de jeu a du coup une incidence importante sur le jeu. J'ai pas encore testé. Ça va venir en novembre.
D'accord.
Stay tuned.
D'accord. Donc voilà. Alors ça, c'est peut-être encore un moins ou un plus, je sais pas. Mais on a moins l'occasion de trouver des choses qu'on trouvera pas ailleurs. Et Trends en faisait partie. Alors c'était vraiment un achat en blind et un achat cher. Japan Brand qui de toute façon se trouve après quelques années plus tard.
Oui, il sera réédité.
Donc ça sera forcément
comme String Railway dont on parlera bientôt. Mais Trends en fait 50€ à la réflexion. Je lui dis c'est pas si cher que ça. Un Dominion c'est 40€.
Là ça vient du Japon.
Voilà.
Ça a été irradié par Hiroshima, Fukushima.
Le seul défaut du jeu, c'est un jeu japonais. Donc, c'est-à-dire que c'est dans une boîte méga plate, parce qu'au Japon, ils ont pas de place pour stocker les boîtes, et qu'il faut stocker dedans 500 cartes, et que du coup, il n'y a pas les séparateurs comme Dominion. Ouais. Donc, là, j'en ai un petit peu, c'est pas super agréable, ça. Mais voilà, c'est le jeu, qui avait, c'est presque la boîte à pizza, entre guillemets.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la boîte à pizza. Et puis peut-être la dernière récrimination qu'on a avant de faire une petite conclusion, c'est les goodies. On a connu des temps bénis où on avait des badges. Voilà, il y avait les badges proxy jeux.
L'année dernière, c'est la folie des badges.
Ouais.
Et puis il y avait les vergers là,
les corbeaux.
Tu pouvais les prendre par pelleté au stand de Abba. Bon, ça sert à rien. Mais...
Et là, il y avait des bananes et des pommes.
Ah, les bananes, on a fait du stock chez Zor, des bananes, nous dit.
Bah, on en a mangé, c'est.
On a mangé un paquet de bananes.
C'est agréable. Alors, en marge de la Bifi et des Lavourses, si on allait chez les gens qui ont fait. Zor pour les bananes, et puis les pommes, c'était Super Poncho.
C'est Grana.
Ouais.
Et les Polonais.
C'était très très agréable. Mais
non,
voilà,
les goodies ont disparu au profit de.
Oui.
Du Kickstarter, en fait. Enfin, les effets. La goodies, maintenant, on te l'offre si tu as précommandé le jeu. Et parce qu'à mon avis, le Kickstarter a balayé tout ça. Saloperie de Kickstarter.
Ouais,
on peut le dire.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'avant, on avait souvent des goodies gratuites sur le salon.
Qu'on n'a plus retrouvé ou très peu cette année. On avait des bonbons Carcassonne. Mais
on a réussi à en avoir cette année.
Mais ils étaient chez Dry Maguire, pourquoi ?
Parce que c'est plus enfant. Et en plus, c'est pas, il me semble pas que c'était les mêmes que ceux qu'il y avait il y a quelques années. Mais voilà. Et par contre, on peut saluer en goodies gratuits.
Salut.
Qui valait le coup. C'était chez Yellow, puisque c'était les dédicaces de Garfield, où il fallait se lever tôt, par contre, pour l'avoir.
Même pas.
Mais oui, il fallait la queue, quand même. Fallait faire la queue, mais c'est ça. J'appelle ça se lever tôt.
D'accord.
Il fallait, oui, où il pouvait donc te créer ta propre carte pour King of Tokyo. Ça, c'était vraiment sympa et c'était gratuit.
Ouais,
enfin, je crois, il y a besoin d'acheter.
Non, c'était bien, c'était bien. Mais tout le monde venait avec son extension de King of Tokyo ou de. Ça a fait vendre aussi, hein, de toute façon.
Ah, bah, bien sûr, oui, non, mais c'est le but.
Bref, monsieur Garfield. Donc voilà, ainsi s'achève Essen 2012, la 30e édition du salon du jeu international de Essen en Allemagne.
C'était la 31e.
C'était bien. Non, c'était les 30 ans.
Et ben justement. Attends. C'était les 30 ans, donc c'est la 31e, je pense.
D'accord, ok. Bon, ça,
on va pas le dire. Les 30 ans du
Essen de cette année. Bientôt Noël. Donc voilà, donc on espère que vous avez apprécié ce petit exercice de style qu'on a fait pendant ces 4 jours, parce qu'on ne le refera pas l'année prochaine. Ça, c'est clair, on s'arrangera autrement.
Oui, non, ça prenait beaucoup de temps, on se couchait un peu tard.
Ouais, c'est-à-dire le lundi, je suis revenu, j'étais décalé.
En fait, ouais, j'arrivais, quand je me couchais à 11h30, j'ai dit, tiens, mais j'ai pas sommeil, je suis encore en forme.
Enfin, le mot, c'était décalqué, en fait. Et ouais, j'étais décalqué.
Mais l'année prochaine, on enregistrera peut-être juste un petit.
On
le met pas en ligne. On le garde, on la remet. Non, mais c'est pas possible de débriefer 20 minutes le soir.
Non.
Non plus.
Bon, ah, bref, on verra. L'année prochaine,
je vais travailler Olivier au corps.
Donc, on verra dans un an. D'ici là, il y a Noël. Et puis, vous allez rester à l'écoute parce que d'ici pas longtemps, aujourd'hui on est le 1er novembre, avant le 1er décembre, on va certainement mettre en ligne un épisode spécial Noël où on va vous dire ce que vous pouvez acheter pour Noël, ce qu'on vous conseille d'acheter pour Noël. Et ça sera un petit peu particulier. On est en train de préparer quelque chose avec d'autres gens. Ça risque d'être très intéressant. Donc si vous avez des achats de jeux de société, attendez un tout petit moment parce que
c'est en rupture.
Non, justement tout ce qui est tout ce qui date des scènes va arriver et ça sera très bien. Donc attendez un moment et vous allez avoir un truc un peu spécial et puis je pense vraiment pas mal à la fin du mois. Donc comme on dit, stay tuned.
Merveilleux.
Voilà. Et alors, on vous dit à bientôt. La semaine prochaine, très bientôt, on reprend le rythme normal. On reprend pas le rythme normal.
Non, on va se débrouiller comme on peut.
On vous prépare le dossier Gateway Games. Et puis voilà, on va mettre en ligne, y a pas de problème. On va continuer à mettre du contenu en ligne. Excusez-moi, je suis malade. Ça s'est entendu, je pense, pendant tout ce podcast, mais là, c'est horrible. Donc, je vous dis à bientôt. En attendant, je vais bien. Le premier, on est allé voir, alors c'était les... Ah, ils sont quoi? Polonais?
Italiens.
Ils sont italiens. Les Italiens de... Alors... Néanmoins, ça va se gâter puisque Wizkid annonce de nouveaux vaisseaux, dont le Faucon Millennium.
Non, c'est Fantasy Flight Games. Ou alors on parle pas du même jeu.
Ouais, c'est ça.
C'est comme ça. Hein. Et puis, comme on est rentré, on va peut-être arrêter avec les puis.
Non, mais de toute façon, je les coupe.
Oui, bah heureusement.
Et puis...
Et puis, et puis, et puis. Du fait de...